Les fleurs ne fanent jamais et rien n'est perdu. Chemin, croix, renfort, carrefour, rouge et blanc, labeur, tournée, fidélité aux sources, souffle croisé des grands-mères vers le petit-fils qui s'efface. Il ne sera jamais nu. Traversée, pavement, labyrinthe, éclair, perfection griffée, elle permet le futur.
La technique, c'est juste un outil pour aller plus loin. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'émotion.
Les fleurs ne fanent jamais grâce à l'excellente scénographie qui est mise en place est vraiment conçue comme un passage. Il y a vraiment toute une trajectoire du début à la de la vitrine jusqu'à la pièce où on se trouve. Et on va suivre cette trajectoire, mais on va commencer par la fin. Puisqu'on va commencer par les œuvres qui se trouvent derrière nous. On peut quand même commencer par dire, Daniel, que tu travailles avec des tissus que tu collectes, des chutes de tissus, des tissus auxquels tu donnes une deuxième vie, voire une troisième, voire une quatrième, puisque tout ça est plein de mysticisme, et que ce qui se trouve derrière nous est composé de chutes très particulières, toutes blanches et rouges. On va commencer par les matériaux qui composent ces tissus. On en a une qui est composée de toile de juif et l'autre d'essuie de serviettes. Est-ce que déjà ces tissus avec lesquels tu travailles ont une signification et comment tu les collectes ?
Alors la collecte, elle se fait depuis des années en fait. Je me souviens surtout que j'ai commencé à travailler le rouge et blanc quand j'étais en troisième année à la Cambre Textile. À ce moment-là, c'était parce que j'avais vu une expo de Jean-Pierre Reynaud au Jeu de Paume sur les psycho-objets. Et j'ai tout de suite vu la puissance du rouge et du blanc tel que Jean-Pierre Reynaud l'utilisait. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai travaillé à l'époque, puis que j'ai mis de côté et qui est revenu dans mes collectes de linge. On va dire que c'est du linge de cuisine.
Ouais.
Y a donc de l'essuie de vaisselle. Il y a aussi des serviettes de table, mais voilà, c'est une collecte qui s'est faite, je dirais, depuis plus de 10 ans. Mais en tout cas, j'ai du mal à travailler tant que j'ai pas une collecte qui est suffisante. Donc voilà, la collecte peut prendre des années, et puis il faut que je trouve qu'est-ce que je vais en faire. Donc là, ça a mis aussi un certain nombre d'années. À trouver qu'est-ce que j'allais en faire.
Donc le point de départ de la collecte est souvent sans savoir ce que tu vas composer avec.
Oui, c'est complètement intuitif.
C'est complètement intuitif. Ouais.
En fait, j'ai commencé par le portrait de ma grand-mère Jeanne, qui est donc ma grand-mère paternelle, que j'ai relativement peu connue puisqu'elle est décédée quand j'avais 7 ou 8 ans, d'origine plutôt modeste, avec un grand cœur, j'imagine. En tout cas, c'est le souvenir que j'ai. Et donc, j'ai voulu parler de cette simplicité en utilisant uniquement le motif du carreau. Donc, un motif que je considère comme non ornemental, plutôt un motif qui se répète de manière très simple. Et donc voilà, c'est le premier portrait qui a été fait. Et puis c'est aussi, c'est une grand-mère qui était couturière. Et donc à son décès, mon père s'est débarrassé de pas mal de choses que moi j'ai commencé à chiner sur les marchés aux puces lorsque j'étais étudiant. Donc il y a quand même une filiation, même si elle a sauté une génération, qui est bien là. Et donc suite à ce premier portrait, il y a eu le deuxième portrait de ma grand-mère Andrée, qui est ma grand-mère maternelle, qui qui est plutôt d'origine bourgeoise. Et c'est aussi une maison que je fréquente encore aujourd'hui, puisque j'ai un oncle et une tante qui y vivent. Et c'est une maison qui est pleine d'art décoratif. Et c'est vraiment quelque chose dont je me souviens très bien. Je me souviens très bien des rideaux avec des papillons, des assiettes avec des hirondelles. Et je sais qu'il y a l'ornement qui vient de cette maison-là. Donc pour cette grand-mère-là, j'ai choisi de la représenter avec en effet des toiles de Jouy, mais aussi des damassés floraux et aussi du linge de vaisselle rouge et blanc floral.
Et c'est vrai qu'on a déjà ces deux choses qui se confrontent, qui vont courir tout au long de l'exposition. Cette question de l'ornement, des choses qui semblent plus ou moins baroques, mais où toi, tu vas chercher plutôt l'essence même des choses. Cette question de l'ornement et son ambiguïté, elle traverse ton travail.
Oui, peut-être plus qu'ambiguïté, je parlerai de dualité.
Dualité.
Mais oui, il y a toujours ce côté double dans mon travail.
On a parlé des matières premières qui composent ces deux portraits, et on a parlé de ce qu'ils représentaient. On va arriver au cœur de ta pratique, puisqu'on va arriver au geste avec lequel tu as travaillé ça. Et alors, ces deux portraits, on ne l'a pas encore dit, sont composés en patchwork. Technique traditionnelle qui pour la plupart d'entre nous, et en particulier pour toi, tu vas nous raconter l'histoire, nous vient plutôt des États-Unis. Pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on connaît le patchwork, dans les traditions Amish, entre autres. Mais c'est une technique qui est ancestrale et mondiale, qui est pratiquée partout et depuis très longtemps. Et c'est une pratique qui est très forte, chargée de sens, chargée d'héritage, dans sa pratique contemporaine, souvent chargée de messages de protestation et contestataires, que ce soit parce que c'était utilisé au moment des colonisations pour instruire les femmes, que ce soit au moment de l'épidémie du sida avec ses grands kilts en hommage aux morts de l'épidémie qui avaient été dressés. Et toi, cette pratique, tu l'abordes pour rendre hommage à nouveau à ton héritage familial.
Alors, c'est une histoire qui a commencé quand j'avais 18 ans. Je suis parti un an aux États-Unis en famille d'accueil en Pennsylvanie, près de Pittsburgh. Et je me suis retrouvé dans une famille d'accueil avec une maman d'accueil qui pratiquait le patchwork et qui m'a initié. Moi, je faisais déjà de la couture puisque avant de rentrer à la Cambre, je faisais du patinage artistique et que j'avais commencé à faire mes costumes et à broder des paillettes sur mes costumes, etc. C'est comme ça que j'ai été sensibilisée à ce monde-là.
Donc l'ornement à ce moment-là, plutôt.
Oui, et surtout qu'on voit bien de loin.
C'est ça. Être visible. Tout à fait.
Et donc voilà, j'ai été sensibilisée au patchwork, et c'est aussi en Pennsylvanie que j'ai été confrontée aux populations Amish, et que j'ai découvert donc le patchwork Amish, qui est quand même un peu différent du patchwork contemporain américain. À la base, le patchwork, c'est vraiment des histoires de famille. Donc on fait des patchworks avec les tissus qui sont dans la famille, dans le trousseau familial. Et donc voilà, quand un vêtement est troué, on le découpe, on en fait autre chose. Mais tout ça a une histoire. Aujourd'hui, dans le patchwork contemporain, les gens achètent des tissus pour couper des morceaux. C'est très rare que les gens continuent à récupérer, alors que pour moi, c'est ça l'essence et l'âme du patchwork.
Oui, tu parlais tout à l'heure d'ailleurs de cette notion de trousseau. En général, un trousseau, ça se transmet. Et toi, tu te crées un trousseau qui recrée celui avec lequel tu as grandi, comme on recrée une famille, en fait.
Oui, oui, moi, je me suis créé un trousseau idéal avec donc vraiment ce qui m'intéressait. Okay. Et comme on peut le voir dans mes sélections, c'est très, très ciblé.
C'est-à-dire ?
C'est par exemple, quand je fais un patchwork, je vais utiliser 20, 40 tissus différents. Mais là, on le voit bien, je vais, par exemple, dans le portrait de ma grand-mère Jeanne, il y a 20 tissus à carreaux d'essuie de vaisselle et 20 tissus de serviettes à carreaux, mais qui sont plus des 50-50 au niveau rouge et blanc. Alors que les essuies, c'est plutôt majoritairement blanc avec des lames rouges. Je découpe des bandes et des carrés. Et une fois que j'ai tous ces carrés, c'est là que commence la sélection. C'est plutôt choisir le bon carré pour faire la bonne ombre ou bien pour faire le morceau de lunettes, etc.
C'est ça. Et d'ailleurs, comme le disait une visiteuse tout à l'heure, on a vraiment le sentiment qu'elle nous regarde. C'est vraiment frappant. On en parlait, le patchwork, c'est une technique très ancienne et c'est une technique qui est très minutieuse, qui demande du temps. Tu dis, dans ce que tu écris sur ton travail, que le temps, chez toi, il est important parce que c'est un temps de méditation. Le temps, il a une énorme place, aussi bien que la notion de passage dans cette exposition. C'est un temps de pensée, de souvenir, ce temps de travail ?
Bah, c'est un temps de beaucoup de choses, mais déjà, quand on travaille dans la mode comme moi, toujours dans l'urgence, prendre le temps de s'arrêter pour sélectionner des tissus, pour commencer à les assembler. Alors oui, la méditation, elle est là. C'est une manière aussi pour moi de prendre du recul par rapport à mon travail. Mais c'est aussi que ma technique de prédilection, c'est la sérigraphie. Et la sérigraphie est quand même une technique plutôt rapide. Okay. Donc je peux produire plusieurs pièces en une journée. Quand je fais un patchwork, c'est un travail qui va se faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc j'ai aussi besoin de ce temps lent. Oui, simplement comme un repos aussi. Mm. Mais oui, la mémoire, forcément, elle est là pour se souvenir.
Mm. Tu disais que c'est un des aspects qui permet de différencier le travail, ton travail créatif, on va dire, de ton travail de commande. On peut différencier l'un ou l'autre comme ça dans la mode.
Oui, ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui, c'est d'avoir un travail personnel. Okay. Et de pas juste donner mon travail ou ma créativité aux clients qui vont se l'approprier. Donc c'est vrai que prendre un temps pour soi, ouais, et ce travail personnel que je fais nourrit forcément le travail que je produis pour les clients et vice-versa.
Ok. Toujours sur cette question du temps, il a une place aussi dans des pièces qui sont dans la pièce qui est juste à côté de là où on est en train d'enregistrer. Oui. Donc il y a toutes ces étapes du patchwork. Ça, on peut en parler. Il y a plein d'étapes dans le patchwork. J'aimerais bien qu'on parle du matelassage, oui, si on a le temps. Oui. Mais il y a une des étapes que toi, tu as rajouté volontairement, qui est ce moment de vieillissement artificiel. Je ne sais pas comment dire ça. Oui, en tout cas, pas le vieillissement naturel des tissus.
Oui, oui, c'est ce que j'appellerais essayer de reproduire la patine du temps. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que parfois, je travaille avec des tissus récupérés qui sont tachés et j'assume ces tâches. Ouais. Ici, dans ce cas-ci, par exemple, c'est un peu bizarre de dire ça, mais les portraits de mes grands-mères, ils ont été lessivés parce que je voulais que les carrés ne soient pas parfaits. C'est un peu comme nos souvenirs qui, avec le temps, je ne vais pas dire s'efface, mais en tout cas s'estompe et se déforme. Et donc voilà, pour moi, c'était important que ces pièces-ci soient lessivées, qui est donc ce qu'on peut dire un vieillissement, mais aussi parce que je collecte moi-même des patchworks et que j'adore ces patchworks qui ont beaucoup servi dans les familles et qui sont un peu abîmés ou même beaucoup abîmés. Et ça ne me dérange pas. Ça me touche au contraire. Donc moi, j'essaie de reproduire ça dans mon travail.
Il y a une pièce où tu utilises une technique japonaise qui s'appelle le shibori, et non pas le shibari.
Oui, le shibori.
en tout cas, dans toute cette dernière partie des drapiers, ce sont des techniques traditionnelles que tu réinventes, que tu fais tienne pour transmettre le message que tu veux transmettre, aussi bien le patchwork que le shibori. Je veux bien que tu nous expliques en quoi consiste le shibori.
Alors, la technique du shibori, c'est une technique de réserve à la teinture. Et la technique que j'ai utilisée, c'est une réserve au pliage. Donc mon tissu a été plié, comme une serviette qui est pliée pour être remise dans son armoire. Et je l'ai comprimé entre deux planches en bois et je l'ai plongé dans une teinture rouge pour laisser s'infuser légèrement le rouge pour venir marquer les plis de la serviette, donc en rouge, avec un effet de diffusion.
Donc visuellement, on a cette serviette dont les plis sont artificiellement marqués et les plis qui rappellent les plis qu'on faisait nous-mêmes ou que faisaient
tout
justement tes grands-mères avant de les mettre sur la table. Ces deux techniques, le shibori et le patchwork, comme je disais, sont des techniques anciennes que tu réinventes. Dans le, la première partie de l'exposition, enfin la suivante pour nous, y a, on passe à des techniques que tu expérimentes. En tout cas des techniques, tout à l'heure c'était très intéressant, il y a une visiteuse de l'exposition qui disait ce que je viens de voir, donc elle venait de la première partie de l'exposition, elle n'avait pas encore vu la, la pièce patchwork, elle disait ce que je viens de voir c'est inimaginable, je n'aurais jamais imaginé que du textile puisse devenir ça. Et c'est vrai que cet effet-là, enfin, je pense que c'est le cas pour nous tous ici, on n'a pas idée quand on regarde ces pièces qui constituent ton trousseau, qu'on puisse lui donner cet aspect-là et cette matérialité-là. Et ça, on le doit au fait que tu, alors, tu expérimentes, tu innoves avec cette technique de la sérigraphie.
En fait, ce qui est important, en tout cas, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'une technique, c'est une technique. Ce qui est important, c'est ce qu'on va faire de la technique.
Ouais.
Donc, petit à petit... J'ai appris la technique de manière, on va dire, plus ou moins académique ou pas, suivant les moments. Et à un moment donné, on essaie de se l'approprier et de trouver sa propre identité. Donc, moi, ce qui m'intéresse dans la sérigraphie, ce n'est pas le motif et la couleur, mais c'est plutôt la transformation de la matière. Donc, pour un travail de sérigraphie, en général, je vais travailler avec un seul cadre, un seul dessin, ou un seul motif, ou une seule image, peu importe comment on l'appelle. Il y a juste une exception dans cette salle-ci avec une trichromie. Mais sinon, en général, je vais travailler plutôt avec un seul passage de motif. Donc, il y a une approche plutôt minimale et matière de la sérigraphie. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait aussi au niveau du patchwork. Parce que le patchwork, on connaît cette technique comme une technique maximaliste où on va mélanger plein de tissus avec plein de motifs, plein de couleurs. Moi, je réduis le nombre de couleurs, je réduis le nombre de motifs, mais j'essaie de développer différemment. Et d'ailleurs, dans la salle d'à côté, la traversée dont on parlait précédemment, c'est un patchwork qui est fait, on va dire, en monotissu, puisque j'ai utilisé un seul tissu, mais que j'ai coupé dans 50 directions différentes pour jouer sur la rythmique. Mais en tout cas, il y a toujours cette approche plus minimale de la technique.
Donc aller vers des choses qui pourraient être maximalistes, comme tu dis, ou baroques, ou très ornementales, on revient à cette question-là, mais essayer d'utiliser ces techniques-là pour aller vers l'âme des tissus, en tout cas pour aller au plus proche de ce que tu veux signifier. Parce que tout à l'heure, tu disais, à l'instant, tu disais une technique est une technique et après c'est ce qu'on en fait. Non seulement c'est ce qu'on en fait concrètement, mais c'est aussi le sens qu'on veut lui donner. C'est important de dire que là, on est en train de faire un petit catalogue des gestes qui précède à cette exposition, mais chaque geste y fait sens. Chaque geste révèle quelque chose.
Mais c'est ça aussi qui est super, c'est que cet été, mon studio a fêté ses 25 ans d'existence, 25 ans qu'on fait de la sérigraphie, et à ça, il faut rajouter les années d'études. Au bout d'un moment, cette technique de la sérigraphie, elle fait partie de moi. Donc, je n'ai plus besoin d'y penser. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux me concentrer vraiment sur qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce que j'ai envie de raconter comme histoire. Et voilà, le propos, il se déplace. Lors des collègues de Damassé, le linge est toujours blanc. Et j'ai ce besoin de mettre une première couche qui est le noir. C'est peut-être une manière de s'approprier ce damassé, mais je trouve aussi que le noir révèle à merveille tout ce qui est mat brillant. Et quand je fais une dorure sur le noir, elle a beaucoup plus de profondeur que si je fais une dorure sur le blanc. Donc voilà, c'est devenu... j'essaie de ne pas avoir trop de routine dans mon travail, mais cette première couche de noir, elle me semble quand même assez indispensable.
Tu disais que la couleur t'importait peu, et c'est vrai que les couleurs, elles sont... Il y en a finalement peu dans l'exposition, il y en a quelques-unes qui reviennent, mais elles sont super importantes. Ce doré, plus qu'avec la couleur, il joue avec la lumière.
Oui, la lumière, c'est super important. Et puis la symbolique des couleurs. Le rouge n'est pas là par hasard.
C'est-à-dire
Ben, le rouge, c'est, pour moi, en tout cas, c'est vraiment la couleur qui est la plus ambivalente, qui est la couleur de la passion et qui est la couleur de la violence aussi. Mmh. On le voit tout de suite qu'il y a quelque chose du sang qui est là.
Bien sûr.
Notamment dans la pièce Shibori qui est à côté.
Tout à fait. Et le doré aussi a cette ambivalence, puisque c'est le doré des églises. C'est aussi le doré de la passion, en fait, d'une forme d'élévation.
Bah, le doré, pour moi, c'est un peu différent, parce que déjà, ce n'est pas une couleur, mais c'est plutôt une matière. Mmh. Et l'ambivalence, elle est différente dans le sens où... le doré, c'est vraiment symbole d'éternité. Mmh. C'est très lié au sacré ou à la religion. Et à côté de ça, c'est aussi le doré qui convoque la convoitise des autres. Donc il y a aussi une dualité qui m'intéresse dans la dorure. Et puis... j'essaie de travailler de nouveau la dorure, pas de manière ornementale, mais en effet, Lydia Kamitsis en parle très bien dans le catalogue, où c'est un or qui tremble, qui se fissure, comme les icônes.
Donc à nouveau, toujours la question des églises et de la religion, qui est super importante, qui est super importante dans ton travail. Entre la première pièce, la pièce de la vitrine des drapiers, et la pièce où on se trouve au fond du jardin, il y a cette pièce qui est, voilà, où la scénographie est parfaite, cette pièce qui est sombre, enfin les murs en sont sombres, et puis on a l'impression que les pièces de ces murs sombres jaillit le doré des pièces, quoi. Mmh. Il y a vraiment l'envie de faire jaillir la couleur hors de ces murs sombres. C'est toujours l'idée de révéler quelque chose que peut-être tout le monde ne voit pas et que toi tu as perçu de manière intuitive.
Oui. Oui, oui, il y a évidemment ça, mais il y a aussi de travailler l'or un peu comme une lumière luminescente. Moi, je m'en rends compte dans mon atelier, quand j'éteins les lampes le soir, que les pièces dorées, elles restent allumées. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et après, ce qui m'intéresse, c'est que le tissu soit vivant. Que suivant l'éclairage, le point de vue du spectateur, on va voir le motif du damasé qui va apparaître, ou bien on va voir la fleur, ou en tout cas, peu importe la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, peu importe le moment du jour, on va toujours voir quelque chose, mais il y aura aussi toujours des choses à découvrir. Mmh. Et ça, c'est vraiment... moi, par exemple, je suis fasciné par les retables du Moyen-Âge, où il y a des milliers de détails que je peux aller voir tous les ans dans les mêmes musées, les mêmes peintures, et toujours découvrir des nouvelles choses. Et j'ai envie que dans mon travail, il y ait aussi cette notion-là, qui est encore, même s'il y a un aspect beaucoup plus simple et minimal, qui est toujours des choses à découvrir, et que tout d'un coup, un nouvel éclairage va complètement changer la pièce.
Ok. Quelque chose qui survit au fait qu'on ait éteint la lumière, quoi. Même une fois la lumière éteinte, même les yeux fermés, quelque chose vient nous hanter, un tout petit détail, comme ça.
C'est très bien dit, ça me plaît beaucoup.
C'est de l'immanence, c'est le fait d'être un petit peu au-dessus de tout ça et de...
Ben, c'est le fait de dire qu'on est ici, sur Terre, comme un passage, et que, voilà, on profite de ce qu'on a aujourd'hui, et que... Demain sera différent, mais demain sera là.
Cette idée de survivance, elle est très présente dans une pièce qui dénote un petit peu, mais qui a son importance pour ça, par rapport au reste de l'exposition. Dans la première pièce, c'est la veste matelassée.
Donc cette pièce-là, en fait, c'est pas un patchwork, c'est simplement un matelassage. Simplement, c'est relatif. Mmh. C'est une chemise en soie qui a été posée sur une couverture en laine avec un mouvement. Un mouvement que j'ai pu observer moi-même lorsque je fais des balades en forêt, de voir un vêtement qui est abandonné et qui petit à petit devient boueux et puis est repris par la terre et la nature. Et donc cette pièce s'appelle ensevelissement parce que la chemise que j'ai posée en surface, grâce à ce point de matelassage qui est un point très simple qu'on pourrait appeler aujourd'hui aussi un point de sachiko, petit à petit, la chemise a commencé à rentrer dans la laine et à devenir complètement figée, presque fossilisée. Et la fossilisation du textile, c'est quelque chose que j'ai déjà beaucoup travaillé et qui m'intéresse beaucoup. Le fait de figer une action, un mouvement, un souvenir.
Tu parles de figer, il y a un autre détail, ornement qui est figé à plusieurs reprises dans l'exposition, ce sont ces fleurs séchées. Enfin, elles ne sont pas toujours séchées, si je me... comme un espèce de tout petit élément de peut-être l'ornement le plus connu pour nous dans l'histoire de l'art, les ornements floraux, dont toi tu prélèverais juste l'essence pour la figer sur du tissu.
Y a toujours ce côté double dans mon travail, ouais. Avec le vrai et le faux. Donc cette fois-ci, en effet, il y a des vraies fleurs qui sont utilisées. Et il y a aussi des empreintes de fleurs, comme la pièce qui est ici derrière moi. Empreinte qui est faite à partir d'une vraie fleur. Mais en tout cas, l'idée, c'était de retrouver la qualité des pétales, la finesse, etc. Et donc oui, ça m'intéresse toujours d'avoir des pièces qui sont plus en trompe-l'œil et des choses qui sont plus réelles.
Toujours cette dualité. Il y a un terme dont j'ai découvert en cherchant un peu pour préparer cet entretien que c'était un terme technique de l'art textile qui est le terme d'ennoblissement. En fait, j'ai entendu Brigitte et Denise dire que les tissus étaient ennoblis et j'ai un peu réagi, mais ces tissus n'ont pas besoin d'être ennoblis, ils ont en eux toute la noblesse du monde. Et en fait, l'ennoblissement est une technique en soi. Je veux bien que tu nous expliques en quoi consiste l'ennoblissement du tissu.
Alors, l'ennoblissement, ce sont toutes les techniques qu'on fait après tissage ou tricotage d'un tissu. Un tissu qui tombe d'un métier est brut, et après, on l'ennoblit pour pouvoir le porter. Et on peut lui donner toutes sortes de qualités, comme infroissabilité, imperméabilité, enfin, toutes ces choses très techniques. Et après, il y a évidemment donner de la noblesse à un tissu d'une qualité, on va dire, plutôt moyenne ou pauvre. Mais l'ennoblissement, aujourd'hui, n'est plus limité à donner de la noblesse à un tissu pauvre. On peut aussi ennoblir un tissu riche. Mais j'ai aussi beaucoup de collègues qui font de l'embellissement, qui est autre chose que dans l'ennoblissement. Moi, j'essaie de rester dans quelque chose de plus fondamental. Et puis aussi, dans ennoblissement, pour moi, il y a quelque chose de l'élévation spirituelle.
D'accord.
Et ça, je pense qu'il y a beaucoup moins de collègues qui travaillent là-dessus.
C'est-à-dire que mais c'est important de dire qu'on n'est pas sur ce qu'on pourrait imaginer du mot ennoblissement qui serait une question de classe. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à donner à ces tissus qui sont des tissus usuels et fonctionnels, on ne cherche pas à leur donner une noblesse qu'ils ont déjà, hein, puisqu'ils sont là, on va parler du damas pour terminer, mais plutôt une dimension spirituelle. Encore une fois, leur faire passer l'épreuve du temps, c'est ça qui t'intéresse.
Oui, mais par exemple, dans les ennoblissements, il y a aussi des laquages qui donnent des aspects... Bon, même si j'aime pas tout à fait le mot, je vais dire qu'il donne des aspects peut-être plus technologiques, avec des effets très très laqués, très brillants. Donc, où on n'est pas dans une sorte de patine du temps, mais on est un peu dans son opposé.
Okay.
Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse, mais en effet, c'est complexe parce que c'est toujours double et ça va toujours dans les deux sens.
On parlait à l'instant du Damas. Dans les premières pièces qui sont au tout début de la visite des drapiers, il y a effectivement, des tissus damassés, sérigraphiés. Et il y a cet étonnement de voir le relief donné par le Damas qui survit à la sérigraphie, mais qui se révèle d'une façon tout à fait hyper étonnante et inattendue.
En fait, depuis toujours, j'aime pas travailler sur des pages blanches. J'aime pas travailler sur des tissus blancs, qui soient des simples toiles. J'ai besoin que les matériaux sur lesquels je travaille aient déjà une identité, qu'ils aient déjà quelque chose à l'intérieur d'eux. Et donc là, c'est vrai que c'est damassé qui ont déjà un motif. Donc un damassé, c'est un dessin qui est fait dans le tissage avec donc une armure satin en droit et une armure satin en vert. Ce qui fait qu'il y a un dessin qui brille, l'autre qui est mat, et on a le négatif sur l'envers du tissu. Et donc, ces nappes damassées que vous avez peut-être aussi connues chez vos grands-mères, par exemple, suivant où on s'installait à la table, on allait voir le motif en positif ou en négatif, ou on allait voir certains motifs apparaître ou disparaître. Et donc, évidemment, moi, à partir du moment où je travaille sur un damassé, je veux conserver cette qualité parce que c'est évidemment une qualité et une richesse. Et donc, je veux la mettre encore plus en avant plutôt que l'effacer.
Oui, c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de conserver une qualité. C'est comme pour la question de la lumière. Les textiles jouent déjà avec la lumière naturellement de par leur tissage et leur qualité première, mais tout le monde ne le voit pas. C'est important de dire que tu ne leur confères pas quelque chose de complètement artificiel, tu ne fais que révéler quelque chose qu'ils ont déjà en eux. Le point de départ de ton travail, c'est, on le sent dès qu'on rentre dans l'exposition, c'est un amour pour le textile, quoi, pour la matière elle-même.
En fait, c'est le textile qui me dicte ce que je dois faire dessus. Donc voilà, c'est pour ça que ça prend du temps, ces collectes, parce que à un moment, l'idée va être là. Mais elle doit mûrir. Et oui, moi, je compose avec ce que j'ai en face de moi. Je ne viens pas poser une image sur un fond sans qu'il y ait une interaction claire. Alors, ça peut être en harmonie ou ça peut être aussi en opposition. Parfois, je peux faire des clashs plus que des choses douces. Mais en tout cas, il y a toujours une réflexion entre les deux. C'est trouver l'équilibre entre ce qui est dans le support et ce que moi, je vais rajouter dessus.
Extrait, chute, regard voilé, le jour se cherche. Trace, tombe, végétaux, philokalie, bras levés, la présence se fait prière. Marque, pliage, serviette, initiale. Famille recomposée, ça bourgeonne sur la margelle du temps. Séparation, velours, densité, moitié, réconciliation en vue, une danse mouvante à l'infini. Rencontre, soie, jaune, doré, complétude, rayonnement au carré. Mes vestes, je ne veux pas les retourner. Défi, vert, légèreté, froissement, ondoiement stable. Je tire la couverture sur un autre que soi. Encore enfiler les fuseaux horaires, enjamber les pas japonais. Et nous serons au chaud, à l'abri des vents contraires.